Bien, bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus en ce lieu où nous allons et nous avons déjà commencé à louer notre Dieu par nos chants, par nos louanges, par nos prières. Nous avons aussi la possibilité de lire librement sa parole, des quelques versets. Dieu a-t-il abandonné Jésus ? Dieu a-t-il abandonné Jésus sur la croix ? Alors ça peut paraître, j'espère en tout cas que ça vous interpelle quelque part. Dieu aurait-il abandonné Jésus? Mais juste avant, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière avant d'arriver à cette phrase que Jésus prononce sur la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi cette expression? Pourquoi cette parole de Jésus, cette parole forte de Jésus, hein? J'aimerais qu'on s'arrête quelques versets avant, un petit peu ce qui se passe, quelques heures avant. Vous savez, ça a été même quelques jours avant. Notamment, je vous emmène dans le jardin de Gethsémané, hein, où Jésus s'était retiré avec ses disciples pour prier, sachant que son heure était proche, que son arrestation était proche, que son jugement était proche, que sa crucifixion était proche. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers, dans le jardin de Gethsémané. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et quand on lit la suite, quand on s'arrête sur chaque phrase, sur chaque mot, on comprend ce que Jésus a voulu dire. Il a été frappé, lui le berger, et ça a mis les brebis en déroute pour un temps. Le temps qu'elles comprennent ce qui est en train de se passer, ce que Jésus avait annoncé, ce que les écrits avaient annoncé, ce qui allait se passer pendant et surtout après. Donc Jésus, il est là avec ses disciples, hein, il les laisse, il leur dit « Priez, moi je me mets un peu à l'écart et je vais prier mon Père. » Et quelques versets plus loin, Jésus leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne. » Puis Jésus revient vers ses disciples, ils dorment, puis il repart une deuxième fois, et il redit la même chose, « Mon Père, est-ce qu'il est possible que cela se fasse sans moi, que ça s'éloigne de moi. » Et puis il a fait ça pendant trois fois. Dans Ésaïe au chapitre 53, vous savez que le prophète Ésaïe a été vraiment le prophète qui a le plus décrit la venue de Jésus et ce qui allait se passer. Et dans Ésaïe 53, au verset 1er, « Qui a cru ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Et puis David, dans les psaumes, avait écrit aussi cela, psaume 22, verset 1er, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça vous rappelle rien ? Les paroles que prononce Jésus. Et David rajoute, « Et t'éloignes-tu sans me secourir ?» Sans écouter mes plaintes. Psaume, David, Ésaïe, peut-être sans savoir exactement, sans se représenter le tableau, voilà ce qu'ils avaient prononcé. Et Jésus prononce les mêmes paroles que David. Après le jardin de l'agonie, les événements vont se succéder et se multiplier. Un peu après, ce que nous venons de lire, dans Matthieu 26, Judas a livré Jésus. Jésus est arrêté. Il est conduit devant Caïphe, et puis Pilate, et puis Hérode, et à nouveau devant Pilate. Hein, chacun essaie de se renvoyer la balle. En fait, chacun essaie de rejeter la responsabilité sur l'autre. Vous vous souvenez de cette illustration de Pilate qui se lave les mains en disant « Mais moi, que ça ne retombe pas sur moi parce que je ne connais pas votre affaire, je ne veux pas être responsable. » D'où l'expression aujourd'hui, hein, ça existe encore. Hein. « Moi, je m'en lave les mains, c'est-à-dire ce n'est pas mon problème. Vous m'avez demandé mon avis, mais ce n'est pas mon problème. » Et puis Pierre va renier Jésus 3 fois. Souvenez-vous de cette parole. Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Ça a commencé Pierre à renier dès que Jésus était mis à part. Ça a été la débandade chez les disciples. Certains sont déjà partis en courant, ont quitté la ville. Pierre, il est là autour d'un feu et on lui dit « Mais n'étais-tu pas ?» « Non, surtout pas moi. » Et 3 fois comme ça. Mais Jésus l'avait annoncé. Mais qui avait prêté l'oreille? Mais qui avait compris? Parce qu'on peut prêter l'oreille sans comprendre. Et puis il y a eu, Jésus, il a été flagellé, on lui a craché dessus. On s'est moqué de lui. On l'a injurié. Jésus entend les cris hystériques de la foule. Crucifie-le! Crucifie-le! Il n'a rien fait, mais que tu le crucifies. On préfère que vous libériez un bandit. Au moins, on sait ce qu'il fait. Au moins, on sait de quoi il est capable. Pourtant, Jésus, qu'est-ce qu'il avait démontré durant son passage sur terre, en arrivant là? Et puis, plus loin, hein, quand Jésus porte sa croix pour aller au Golgotha, il doit porter sa croix. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Isaïe avait écrit ça aussi. Il porte la croix et puis Simon de Cyrène va l'aider. Il va l'aider à porter la croix. Elle est lourde, elle est très lourde. Jésus peine, il est blessé, il saigne, il est épuisé. Et là, hors de la ville, il crucifie sur cet infâme bois. On en a déjà parlé, on ne revient pas dessus, la symbolique de la croix, du bois. Et puis, la foule dit « Ah, il a sauvé les autres !» Il en a sauvé plein. Il en a guéri plein. Des infirmes, des boiteux, des aveugles, des lépreux. Il a ressuscité les morts. Lazare, puis d'autres. Des fils, des filles. Et on lui dit « il en a sauvé plein !» Donc, il savait de quoi était capable Jésus quand même. Hein. Il en a sauvé. Et bien alors qu'il se sauve lui-même. Qu'il descende de la croix. C'était des paroles de moquerie, mais c'était la vérité, parce que Jésus ne pouvait pas à la fois sauver les autres et se sauver lui-même. Si à ce moment-là, il avait refusé que la coupe s'éloigne de lui, il aurait pu se sauver lui-même, mais nous n'aurions pas été sauvés par avance. Il choisit de se sacrifier pour le salut du monde. Qu'est-ce qui empêchait Jésus de descendre de la croix en disant hey, « Vous avez vu ? Eh oui, vous ne me croyez pas, mais je suis bien le Fils de Dieu. Regardez, je suis descendu de la croix. Et maintenant, je pulvérise tous. » Est-ce que c'était ça, la mission ? Puis alors, il y a eu d'épaisses ténèbres. Hein, la sixième... Jusqu'à la neuvième, il eut des ténèbres sur la terre. Les ténèbres, c'est synonyme de péché. Hein? Là, c'est la lumière qui s'affronte avec les péchés. Puis à la naissance de Jésus, en pleine nuit, le ciel s'est illuminé. À la mort du Fils de Dieu, en plein jour, le ciel s'assombrit. L'inverse. Que s'est-il passé pendant ces moments d'obscurité? Qu'a pensé l'humanité, va-t-on dire? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus, notre iniquité, nos péchés. Jésus, c'est voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il fallait faire quelque chose pour ôter ce péché du monde. Et le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans Hébreux chapitre 9, verset 28, « De même Christ qui s'est offert une seule fois, pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut, quand Jésus reviendra. » Un Pierre 2, 24, « Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. » Jésus n'est pas devenu péché, il ne pouvait pas. Mais symboliquement, il a porté nos péchés. Jésus n'est pas devenu impur. C'est comme si nous avions un fardeau en nous, un sac à dos, on va dire maintenant, hein, donnons une illustration moderne. Un sac à dos avec plein de mauvaises choses dedans. Hein, on se promène avec toute la journée. Et puis à un moment donné, Jésus dit donne. Voilà la symbolique. Donne, moi je vais prendre ton fardeau. Ce qui te blesse, ce qui te peine, ce qui te fait mal, le mal que tu as fait, je le prends avec moi. Je le porte pour toi. Je te libère. Je te soulage. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Enfin, devenir péché, attention, hein. Comprenons bien ce que cela veut dire. Hein. Il n'est pas devenu pécheur. Jésus était saint, hein, fils de Dieu, Dieu lui-même. Mais c'est l'image. Hein. L'image, c'est comme si lui prenait tous les péchés de l'humanité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Les ténèbres représentent la séparation d'avec Dieu. Les ténèbres représentent la séparation d'avec Dieu. À ce moment-là, il y avait un combat, il y avait une lutte. Hein, le bien, le mal, le bien. Mais c'est le bien qui l'a emporté. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 5, « En lui, Jésus, il n'y a point de ténèbres. » Jésus est la lumière du monde. Il est venu pour éclairer les ténèbres, comme le jour de sa naissance. Et là, il montre que les ténèbres sont là. Les ténèbres sont sur la terre. C'est dans ces ténèbres du dehors que le Fils de Dieu est plongé à notre place. La face du Père est voilée pour Jésus. Il y a un voile. Car il a porté sur lui l'iniquité de nous tous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pensons à cette parole de désespoir de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il n'y a plus personne? Pourquoi je crie, tu réponds pas? Pourquoi je te parle, tu me réponds pas? C'est comme si vous appeliez quelqu'un au téléphone et il n'y a personne qui vous répond. Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de sonnerie, il n'y a rien. Vous parlez dans le vide. Ça me fait penser, c'est une illustration comme une autre, elle vaut ce qu'elle vaut, mais à ce moment-là, il y a une séparation entre Dieu et Jésus. C'était un passage. Il y avait besoin de quitter la terre, de porter les péchés et d'être délivré de cela. Ça me fait penser à une voiture. Et le moteur ne répond plus, ne démarre plus. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Il n'y a plus de connexion. Pourtant, le moteur est toujours dans la voiture. Il n'y a pas eu de séparation. Il y a eu une rupture de contact, mais il n'y a pas eu de séparation. Certains peuvent penser que, alors, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné, hein? C'est un cri de colère. Jésus est en colère. Ah! Pourquoi m'as-tu abandonné? On aurait pu lui dire, avec tout ce que j'ai fait. Regarde, même eux, ils me crucifient. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que Jésus méritait ça? D'un point de vue humain, je parle. Hein. Est-ce que Jésus méritait ça? Les crachats, les moqueries, les clous dans les mains, les épines dans la tête. C'était peut-être aussi un signe d'incrédulité, de désespoir. Peut-être qu'ils disaient, mais peut-être je ne croyais pas que ça allait se passer comme ça. Oui, il faut que le Fils de l'homme, machin, il souffre, tralala. Mais bon, jusqu'à quel point qu'on pouvait s'imaginer les disciples? Que s'étaient imaginés les disciples? Est-ce qu'ils s'étaient imaginés la scène? Oh là là! Mais ils sont en train de mettre Jésus sur la croix, c'est fini! L'histoire se termine! Voilà! Pour ça, Jésus a dit, attention, dans quelques heures, je vais devenir pour vous un sujet de chute. Il y en a qui ne vont pas comprendre la signification. Peut-être que Jésus avait nourri l'espoir jusqu'au dernier moment, hein, quand il disait avec la coupe, mais moi j'en veux pas, je sais. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais je ne veux pas boire. Je ne veux pas assumer. Peut-être que les anges allaient venir et hop, on balaye tout ça et fini. Pas de souffrance. Rien. Pas d'histoire. Donc, le prophète Ésaïe, ben, il s'est trompé. Et puis, les paroles qu'a employé David, Jésus n'aurait pas pu les réutiliser. Il n'y avait plus de lien. Là, il n'y avait plus de connexion. Là, il n'y avait plus de sens. Il n'y avait pas d'accord. C'était des lignes vides, hein, comme un électroencéphalogramme. Bip, 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 bip. Fini. Terminé. Plus d'histoire. Peut-être qu'on peut se dire, mais alors la foi de Jésus a chancelé. Attention, Jésus, tu dérailles. Jusqu'où ça va t'emmener? Mais on n'en veut pas de cette explication parce qu'elle n'est pas juste. C'est pas ça, cette explication-là. C'était pas de la colère, ni de l'incrédulité, ni du désespoir. Pourquoi Jésus aurait-il cité cette expression de David, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» S'il voulait réellement faire allusion à sa fin. Jésus exprime un réel abandon. Il s'abandonne. C'est la condition réelle de notre Seigneur. Il est venu pour s'abandonner. Il est venu pour donner sa vie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Jésus a payé un grand prix en endurant des tourments épouvantables. Des tourments que doivent ressentir les condamnés, les perdus. Si Jésus n'avait souffert que la mort corporelle, il n'y aurait été question que de rédemption du corps. Si Jésus n'avait souffert que la mort corporelle, il n'aurait été que le rédempteur des corps. Or, il est le rédempteur des âmes également. Son âme n'aurait pas participé aux souffrances dues pour nos péchés. C'est vrai qu'à cette heure-là, un abîme s'est creusé entre les deux, entre le Père et le Fils, volontairement, mais accepté par les deux. Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Jésus a obéi et il est retourné auprès du Père. Il fallait que la boucle se fasse. Sans sacrifice, point de salut. Cet abîme insondable a été creusé par nos péchés. Pas Jésus qui a creusé, qui a créé ça. Ni Dieu. C'est ce que nous méritions. Mais Jésus l'a subi à notre place. La Bible dit et confirme que Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le pécheur est séparé de Dieu. Le péché sépare le pécheur de Dieu. Même si Dieu aime le pécheur. C'est pas un paradoxe, hein? Il y avait un accord parfait dans cette trilogie, hein? Dieu, Fils, Esprit. Chacun est en accord avec ce qui allait se passer. Jésus prononce cette phrase de David parce que elle a été écrite sous cette forme dans l'Ancien Testament et il y a un lien entre les deux. Et puis Jésus prononce aussi ces paroles. Il dit, Jésus dit, tout est accompli. Tout ce qui était prévu, ça y est, c'est accompli. Ésaïe, David, tout ça, ça s'est accompli. Au moment où il rend l'âme, où Jésus rend son âme, le voile du temple se déchira en Dieu. Cette séparation qu'il y avait entre l'homme et Dieu, elle s'est déchirée. Il n'y avait plus besoin d'avoir d'autres intermédiaires que Jésus. Ce voile, hein, symbole de la séparation, n'existe plus. Il n'y a plus besoin de sacrificateur, de souverain sacrificateur. Il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Jésus a balayé tout cela. Pour nous montrer également que nous avons un libre accès, chacune, chacun, un libre accès direct à Dieu, sans passer par qui que ce soit d'autre ou quoi que ce soit d'autre. La croix nous démontre la gravité du péché, certes. Dieu devait nous condamner. S'il n'y avait pas eu Jésus, il n'y aurait pas eu de rédemption, il n'y aurait pas eu de résurrection des corps. Donc, Apocalypse, aucune valeur, le retour de Jésus, plus de valeur. On est obligé de commencer à... Si on enlève l'histoire de Jésus, on commence à découper certains passages de la Bible. Ésaïe, on oublie. Les paroles de David, on oublie. On découpe, on jette Apocalypse. Retour de Jésus, tout ça, pas besoin, ça n'existait plus. Donc, pas de résurrection des corps. Pas de résurrection des âmes, donc on prend la Bible et on peut la mettre au feu. Elle ne sert à rien. Ce n'est qu'un livre historique. Ça ne serait qu'un livre historique s'il n'y avait pas eu justement cette histoire de Jésus. Quelqu'un qui prend ma place. quelqu'un qui accepte de prendre ma place. C'est dur. C'est-à-dire, mais il faut que je passe par là. Il faut que j'accepte de passer par là. Et à un moment donné, je me sens seul. Jusqu'à ce que le passage se fasse. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il puisse mettre dans nos cœurs vraiment de comprendre que Jésus a payé le prix. Nous n'avons pas à chercher à gagner quelque chose, à gagner notre salut par une attitude, par un engagement, par un service, par une façon d'être, de penser. Non, rien. On ne peut pas gagner le ciel, comme on dit. On ne peut pas gagner le paradis parce que Jésus l'a fait déjà à notre place. Nous, il suffit juste que l'on monte dans le train, on prenne le bateau, l'avion, comme vous voulez, mais qu'on ne reste pas à côté. Celui qui reste à côté de l'histoire. Il ne connaîtra pas la suite. Nous, j'espère, mon Dieu, que nous connaîtrons la suite. Voilà, je vous encourage vraiment. Alors, pour ceux qui ont déjà pris l'histoire, de s'appuyer sur cette force, cette vérité, que Dieu peut tout en toute chose. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, de dire, voilà, mais j'ai quelqu'un qui a déjà payé le prix. Donc, je viens à lui tel que je suis. Amen.